Le SA15 Mag Attitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du SA15 Mag Attitude. Nous sommes de retour en 2024. Nous vous souhaitons à tous et toutes une très bonne année 2024. Et toujours avec moi, mes deux acolytes, les habitués de l'émission, Christian et Loïc. Bonsoir à tous les deux, comment allez-vous?
Salut tout le monde. Eh bien écoutez, j'espère que ça va bien. Comme on l'entend, je suis un peu malade, mais ça va tranquillement. Bonne année à tout le monde, meilleurs vœux aussi, bonne santé et à tous les auditrices et auditeurs aussi de Attitude FM.
Et toi Christian, tout va bien pour toi?
Tout va bien, les fêtes sont terminées, on retourne sur le terrain et puis on commente les résultats du week-end.
Ouais, enfin on va pouvoir reparler de sport, hein, parce que c'est vrai que cette coupure qui fait du bien aux joueurs, une petite coupure quand on aime le sport qui est assez longue, hein, parce qu'on voit pas grand chose, hein, de bon, si à l'étranger un petit peu, il y a quelques matchs, le top 14 aussi nous a permis de pouvoir rester un peu dans le bain, mais bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu triste ces périodes-là, même si voilà, on trouve le bonheur auprès de nos familles. Eh bien écoutez, si vous le voulez bien, on va lancer le sommaire de l'émission.
Le SA15 Mag Attitude, le sommaire.
Et oui, au sommaire de l'émission. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler du match qui avait lieu vendredi soir. C'était à la Rabine, on s'attendait à un match très très compliqué pour le SA15. Le SA15 a en effet perdu face à Vannes, on va le voir dans un instant. Mais ce fut un match quand même relativement équilibré. Le SA15 a fait bonne figure, on va en parler dans un instant. Il n'y aura pas de résultat des jeunes, puisque les jeunes n'ont évidemment pas repris encore. Et par contre, nous allons parler du prochain match, puisque ce sera le deuxième de 2024. Ce sera surtout un deuxième match à l'extérieur, face à un adversaire très compliqué à jouer chez eux, mais qui, pourquoi pas, serait dans les cordes du SA15. On en parlera dans quelques instants. Mais on va lancer tout de suite le débrief du match.
Le SA15 Mag Attitude, le débrief du match.
Christian, un débrief de match malheureusement pas heureux. On s'attendait à ce que ça soit compliqué à Vannes pour une reprise 2024. Bon, on croisait les doigts, on se disait pourquoi pas. Vannes était quand même sur des résultats médiocres ces derniers temps, même s'ils sont toujours en tête de ce championnat. Et finalement, le SA15 est bien rentré dans son match, Christian.
Tout à fait, c'est d'ailleurs le SA15 qui ouvre le score au bout de 4 minutes de jeu grâce à une pénalité de Glénat. Le SA15 mène 3-0 à la 4e minute. Vannes va inscrire le premier essai de la rencontre, un essai de Léafa transformé par Le Bail. Vannes donc prend l'avantage 7-3, on joue la 9e minute. Et puis derrière, c'est le SA15 qui va marquer les points dans cette première mi-temps avec deux pénalités. La première à la 12e minute de Glénat et la deuxième à la 16e minute de Glénat. Si bien qu'à la mi-temps, le SA15 est viré en tête 9-7 pour les violets.
Une première mi-temps plutôt pas trop mal maîtrisée par le SA15. Qu'en as-tu pensé, toi Loïc, de cette première mi-temps du SA15 face à un adversaire qui, on avait l'impression, était un petit peu resté quand même à la table des fêtes?
Ouais, c'est ça en fait. Je pense que l'équipe de Vannes n'était pas encore à son meilleur niveau pour la reprise de cette Pro D2. Tandis que nous, on est bien rentré dans notre match malgré le premier essai qui est allé assez vite, juste avant la 10e minute. Mais on a réussi quand même à ne pas s'écrouler directement, et surtout que les Bretons ont fait pas mal de fautes en ce début de match, ce qui nous a permis à coller à chaque fois au score et même à prendre l'avantage. Et puis après, c'était un combat, un bon combat pour tenir défensivement, parce qu'il y a eu quand même de belles actions de Vannes, même si le score ne reflétait pas cette première mi-temps. Mais voilà, ça a bien tenu, et là on s'est dit écoute, maintenant qu'on a fait le plus gros, va falloir faire pareil jusqu'à la 60e pour les faire douter de plus en plus, et pourquoi pas faire quelque chose là-bas, ce que je pense pas grand monde pensait, que le SA15 allait faire quelque chose, un coup du moins, même à la mi-temps
à Vannes. Ouais, tout à fait. On espérait au moins un point, ça aurait été déjà très très bien. Malheureusement, Christian, la seconde période, Vannes en seconde période s'est réveillé.
Et oui, puisque les Vannetais marquent un essai à la 54e minute, un essai suite à une mêlée, c'est Kella Mofoni qui s'échappe et qui parvient à aplatir dans le but charentais. Donc 12-9 pour Vannes, 14-9 même, puisque transformation de Le Bail entre les poteaux. Donc Vannes qui reprend 5 points d'avance, mais le bonus défensif est toujours là. Et finalement, bah, c'est une fin de match où il y aura quelques cartons pour le SA15, avec un premier carton jaune pour le jeune pilier Tabarro à la 61e minute. Donc le SA15 joue provisoirement à 14, ce qui permet donc à Vannes de prendre l'avantage grâce à un nouvel essai conclu par Boulier, qui marque donc un essai qui sera transformé par Lafage. 21-9 pour Vannes, l'essai du bonus offensif pour les locaux et un essai qui prive le SA15 de points. Et malheureusement un nouvel essai pour Vannes, donc à la 72e minute, un essai de Pédémonte, donc 26-9 puis 28-9 suite à la transformation de Lafage. À noter également deux autres cartons dans cette rencontre pour le SA15, un carton jaune pour Diakité à la 75e minute et malheureusement un carton rouge pour Tabarro, donc qui malheureusement obtient un deuxième carton jaune, et donc le SA15 finira cette rencontre à 13-15. Malgré tout, c'est quand même une belle réaction du SA15, hein, qui dans le temps additionnel va marquer un essai, son premier essai du match. Barrette s'échappe sur la droite et va marquer. Transformation de Botica et défaite du SA15, 28-16.
Ouais, 28-16, Loïc, après une première mi-temps plutôt pas trop mal maîtrisée par le SA15, bah finalement le Van en seconde période a montré qu'à domicile l'équipe était plus forte et que le SA15 avait encore malheureusement fait peut-être un peu trop de fautes et puis surtout a joué en infériorité numérique toute la seconde période, et dans ce cas-là malheureusement à l'extérieur on n'existe pas, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais ces cartons ont été peut-être le tournant de ce match.
Oh bien sûr, ça a été largement le tournant du match. Voilà, c'est cette indiscipline charentaise qui nous a fait mal dans cette seconde période. C'est là qu'il va falloir travailler du côté du SA15, savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la différence entre la première et la seconde période dans la tête des joueurs. Parce que quand tu vois la première période où tu tiens le coup et cette deuxième période où tu passes mais énormément à côté, là il y a il y a quelque chose qui s'est passé. Alors ça va être au coach de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, et surtout comment faire pour pas que ça se reproduise les semaines suivantes là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que ça a été surprenant de se prendre 4 cartons à une mi-temps, quoi. 4 cartons et on finit à 13. Donc c'est pas possible de faire ça, surtout quand tu mènes jusqu'à la 50e minute. Là tu dois te poser des questions là-dessus. C'est ce qui va se passer, je pense. Ça a dû se passer dès ce lundi.
Ben on va écouter tout de suite, hein, en conférence d'après-match, il y avait Tanguy Cardrin, il y avait également Gauthier Gibuin qui revenait de blessure, hein, on va en parler dans un instant, et Iñaki Ayarza.
Le plan stratégique de première mi-temps était adapté, on a décidé de défendre sur leur point fort la touche différemment pour permettre d'être en surnombre en fait sur les défenses de ligne, et ils ont multiplié des temps de passe, et puis finalement ça s'est avéré été positif parce que sur plusieurs temps ils finissaient par perdre la possession. On défendait plutôt bien en circulant autour des zones de ruck. Je pense que là-dessus on a été pertinent sur la première mi-temps, et puis en fait le scénario de deuxième a annoncé dans les vestiaires, on leur dit ils vont changer la forme de jeu, ils vont jouer plus axial, et puis c'est ce qui se passe, et là on finit par subir la puissance vantaise en jouant plus simple, en gagnant les collisions, et là par contre on n'a pas réussi à faire face dans la durée. La mêlée d'élite avec des changements, on est sanctionné, carton, et puis on joue pas à 15 pendant une seule seconde pendant toute la deuxième mi-temps. Donc on est battu par plus fort que nous ce soir, et puis on va essayer de travailler sur cette première mi-temps et évidemment questionner la deuxième. Là on est vraiment dominé sur la deuxième, la dernière action est litigieuse, donc on finit à moins 12 il me semble. On avait vraiment ciblé cette forme de jeu en deuxième période, on avait stratégiquement changé le plan, et puis malgré ça on a subi, et puis pénalité, carton jaune, encore du scénario.
Ouais, il y a une déception parce que Bon, on a mis du cœur à l'ouvrage, on a été vaillants, on a défendu longtemps plutôt bien. Après, le problème, c'est que voilà, pour exister ici, on le savait, il fallait aussi être discipliné, ce qu'on n'a pas été, notamment moi. Et après, les rares fois en deuxième mi-temps, on a touché le ballon, on aurait pu mettre un peu notre rythme, tout ça, on l'a reperdu beaucoup trop vite. Donc on savait que chez le leader, ce serait très compliqué si on n'avait pas, enfin voilà, si on n'arrivait pas à mettre ces éléments-là en place, en plus de notre courage en défense. Quoi.
On a pu faire ça qu'on avait fait à l'entraînement, ça qui est en nos caractères. C'est une des choses qu'on veut mettre en place et que les équipes nous reconnaissent pour ça. Mais après, de ces mi-temps, on est super déçu. Je crois qu'on a manqué la maîtrise, on a manqué fermer les matchs. Et c'est une habitude que j'espère que ça va pas prendre.
Ça a été très difficile, mais on a passé toute la deuxième mi-temps à, je crois, un de moins, à faire que défendre. Donc voilà, ça demande beaucoup d'énergie pour défendre la ligne. Et voilà, après ça devient difficile en conquête, ça devient plus difficile partout, les fautes s'accumulent. Et voilà, une fois de plus, chez le leader qui joue un très bon rugby, c'est devenu trop compliqué de tenir. Après, comme Tanguy le disait, on va s'appuyer pour la semaine prochaine sur le cœur qu'on a mis. Voilà, sur ce dernier essai qu'on met à la fin, on n'a rien lâché jusqu'au bout, même si avant ça devenait quand même compliqué. Donc voilà, il y a quand même des bonnes choses, même s'il y a beaucoup de boulot qui nous attend si on veut faire mieux au RIAC la semaine prochaine.
Forcément, des joueurs et un staff un peu déçus, même si on sait que se déplacer à Vannes, c'est très compliqué. Messieurs, comment est-ce que vous analysez cette conférence de presse? Et côté bonne nouvelle, finalement, c'est le retour de Gauthier Gibouin après une blessure assez importante à la face, qui peut enfin rejouer au rugby.
C'est une bonne nouvelle pour lui, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe, parce que Gauthier, c'est quand même une personne, un leader de cette équipe du SA15. Donc faut pas l'oublier ça, et je pense qu'il va faire du bien dans ce pack d'avant pour remotiver les troupes, notamment certains jeunes joueurs qui n'ont peut-être pas assez d'expérience dans cette Pro D2 encore. Mais oui, tout le monde est déçu, voilà, du résultat, surtout quand tu sais le score à la mi-temps et surtout la première mi-temps que tu as donnée. Donc c'est sûr que ils sont déçus, tout le monde serait déçu. Je pense que après moi le premier, je m'attendais pas à la fin du match à un score avec seulement 12 points d'écart. Hein. Je m'attendais à beaucoup plus quand tu vois cette équipe de Vannes, comment elle déroule sur énormément d'équipes. Donc tu te dis qu'au final tu t'en sors pas trop mal là-dessus.
Mais bon, tu prends pas un point, quoi. De quoi qu'il en soit, tu repars à zéro.
En fait, au final, il y a un petit peu de regret, quoi.
Mais bon, pareil, Christian, tu fais le même bilan. Un match décevant au vu de la première mi-temps, ou est-ce que tu te dis, bon, après tout, c'était un premier galop d'essai. Le 2024 débute pas si mal en prenant que 12 points à Vannes.
Pour moi, ce match de Vannes, c'était un match un peu à part, un peu match bonus, même si, bon, forcément, les 30 journées de championnat sont toutes importantes, mais d'un point de vue contexte point, le SA15 était sorti de la zone rouge juste avant les fêtes. Ils allaient chez le premier, donc pour moi, il n'y avait pas d'urgence de points, et puis c'était avant tout, voilà, d'aller perdre à Vannes sans bonus. Je pense que la plupart des équipes vont aller le faire, donc il n'y a pas de déshonneur à prendre zéro point. Maintenant, finalement, c'est positif de revenir de Vannes déçu, hein, parce que ça veut dire qu'il y a eu match. Ça veut dire que le SA15 était quand même dedans. Mais effectivement, ça change pas l'addition. Malheureusement, ça change pas le fait que le SA15 ne ramène pas de points. C'est bien dans le sens où ils ont quand même su rivaliser avec cette équipe de Vannes pendant 50 minutes. Ça donne des bases de travail. Et puis quand on voit les joueurs qui ont été alignés, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont joué avec les espoirs sur le dernier match en mois de décembre. Hein. C'était une équipe assez jeune. Hein, quand on prend des joueurs comme Diakité, comme Great Banks, ou comme par exemple Dubec, c'est trois joueurs qui étaient titulaires contre Clermont avec les espoirs. Donc le SA15 s'est quand même déplacé avec une mini classe biberon, on va dire. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Après, voilà, hein, c'est vrai que s'il y avait... je pense qu'Angoulême n'a pas à choisir ses matchs, parce que quand on joue le maintien, on joue tous les matchs à fond, mais c'est sûr que entre Vannes et Aurillac, l'adversité la plus costaude est facilement trouvable. Donc du coup, voilà, ça, ils ont rivalisé pendant 50 minutes, ça n'a pas suffi, mais il y a des enseignements, je pense, positifs à retirer. Mais forcément, la finalité de l'histoire, c'est que ça fait 0 points et qu'il y a eu des cartons.
En tout cas, on croise les doigts parce que finalement, bon, ils ont pas éclaté. Et surtout, on va en parler dans quelques instants, mais il y a un nouveau match à l'extérieur qui semble quand même un peu plus abordable pour les SA15. Même si, on sait qu'Aurillac choisit ses matchs, fait des déplacements un petit peu à vide en ce moment, ils prennent à chaque fois des éclats, et à domicile s'impose assez largement, même face aux grosses équipes, donc on va voir ce qu'il est possible de faire là-bas dans peu de temps, en fin d'émission. Il y avait également, bien sûr, d'autres matchs lors de cette journée de Pro D2. Le premier, c'était le jeudi 4 janvier. Grenoble recevait dans ce qui était le match au sommet, puisqu'il recevait Provence Rugby, et Grenoble s'est imposé très largement, 45-10. L'US Dax, c'était vendredi, donc là, tous les autres matchs recevaient Montauban, et l'US Dax s'impose 7-0, un match un peu terne. Agen s'impose face à Valence Roman 24-18. Agen s'impose enfin. Colomiers s'impose largement face à Nevers 28-3. Colomiers, après un début de saison compliqué, commence à montrer le bout de son nez, et il y a de grandes chances quand même qu'ils finissent dans les 6 premières places en fin de saison. On en parlera aussi. Rouen a nouvellement battu par le Stade Montois 21-20. Béziers explose Aurillac 54-14. On l'a vu, Vannes s'impose face à SA15 28-16. Et enfin, Biarritz, là c'est quand même la surprise, est encore battu à domicile par Brive, sur le score de 23-8. Une équipe de Biarritz qui n'y arrive tout simplement pas dans cette Pro D2. Au classement, on retrouve Vannes premier avec 50 points, deuxième Béziers 45 points, troisième Provence Rugby 44 points, le Stade Montois est quatrième avec 40 points, cinquième Nevers 39 points, Colomiers sixième avec 35 points, septième Brive 35 points également, huitième Montauban 34 points, égalité avec Aurillac qui a également 34 points, dixième Agen 33 points, égalité avec l'US Dax qui a également 33 points, douzième Grenoble 29 points, treizième Valence Roman 26 points. Valence Roman qui a égalité de points avec le SA15, donc le SA15 est 13e ex aequo, on peut dire, avec Valence Roman. Avant-dernier, 15e, Biarritz, 24 points, donc 2 points derrière le SA15. Et bon dernier désormais, 16e, Rouen, avec 15 petits points. Messieurs, on a 2-3 minutes là pour parler du classement. On voit que Rouen prend un éclat et se retrouve désormais très très loin à la dernière place. Biarritz n'y arrive pas. Et puis une équipe de Colomiers qui remonte petit à petit dans ce classement. Aurillac qui vient d'exploser à l'extérieur, mais bon, on va en parler dans un instant, reçoit le SA15, c'est un autre match. Comment analysez-vous ce classement qui désormais, on peut dire, est le classement de mi-saison?
Pour moi, c'est statu quo en bas de tableau avec Angoulême qui perd, Biarritz qui perd, Rouen qui perd, Valence qui perd un peu, égalité avec le SA15. Donc statu quo en bas de tableau, ça augmente les regrets de ne pas avoir pris un point à Vannes, mais en tout cas, pour moi, c'est statu quo. Donc, dans l'histoire, le SA15, il y a une journée qui se passe. Chez le leader, en plus, et le SA15 ne perd pas de place. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne affaire comptable pour Angoulême.
Ouais, c'est pareil pour toi, Loïc.
Je vais juste dire deux choses. La première, c'est que pour moi, Rouen, s'il n'y a pas une victoire dans ce bloc, c'est fini pour eux. Il y a maintenant 10 points d'écart avec le premier barragiste, et après 12 points sur nous, 14e. Donc, pour moi, c'est fait après. Et surtout, quand tu vois leur calendrier, ça va pas être facile.
Ouais.
Après, le reste du classement, je vais surtout parler des résultats qui sont quand même assez surprenants sur cette journée. Quand tu vois un match au sommet entre Grenoble et Provence et qu'au final, ça finit avec 35 points d'écart, tu te demandes en fait comment elle joue cette Pro D2. C'est quand même assez surprenant. Et surtout qu'on a failli avoir, en fait, c'est ça que je veux remarquer, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui le sait, mais ce match entre Dax et Montauban a failli être le score du siècle, le score de l'histoire du rugby professionnel en France.
Il y avait 0-0.
Il n'y a jamais eu un score 0-0 en rugby professionnel en France, que ça soit en Pro D2 ou en première division. Et ça s'est joué à 3 minutes. À 3 minutes, il y a eu l'essai à la 77e. Donc on a failli avoir l'exploit du 0-0 où Dax n'est pas verni niveau terrain ces dernières semaines. C'est pour ça qu'ils font pas mal de petits scores.
On avait déjà fait avec le SA15 du côté de Valence il y a quelques semaines, où finalement c'est Valence qui va remporter de deux pénalités en fin de match.
Ouais, mais c'est là où on voit, c'est souvent ces équipes, hein, parce que Dax, c'est pas la première fois là que c'est ric-rac, hein, il y a très très peu de points. Valence, c'est pareil. Alors je pense que les terrains, ils sont aussi pour beaucoup. Très bien, messieurs, on va laisser passer une page de publicité rapidement et on revient tout de suite pour la suite du SA15 Mag Attitude.
Le SA15 Mag Attitude, toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude. Le SA15 Mag Attitude, toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.
Et oui, nous sommes de retour dans le SA15 Mag Attitude. Nous étions en train de commenter ce classement. Tu nous disais, hein, Loïc, l'US Dax avait frôlé l'exploit sur son terrain puisqu'il n'y avait jamais eu de 0-0 en match professionnel et c'est passé à 3 minutes près. C'est vrai que ces deux équipes, hein, que ça soit Dax ou Valence Roman, messieurs, à chaque fois à domicile, il y a très très peu de points en ce moment. On se rend compte que les terrains gras et autres permettent pas d'offrir beaucoup de jeux. Est-ce du coup je fais assez rapidement le lien, est-ce que par contre une équipe comme le SA15 ayant un terrain aujourd'hui synthétique peut justement tirer un petit peu profit de la qualité de son terrain pour prendre, pourquoi pas, hein, un peu d'écart avec cette équipe de Valence Roman ou pas?
Moi je pense qu'on le voit quand même, hein. On le voit sur les matchs qu'il y a eu à domicile du SA15. Des fois on a été déçu, mais souvent j'ai été agréablement surpris. Et donc je l'ai vu la dernière fois quand j'y étais pour le match contre Agen, où j'étais agréablement surpris parce que eux, ils ont l'habitude de s'entraîner et surtout de jouer sur du synthétique toutes les deux semaines, tandis que les autres équipes, avec les joueurs d'Agen, j'en ai parlé parce que j'en connais quelques-uns et ils me l'ont souvent dit que oui, le terrain synthétique, ça y joue. Alors oui, il y avait le public d'Angoulême qui a joué ce jour-là, mais il y a aussi ce terrain synthétique qui y joue parce que eux, même si la plupart des clubs, s'ils n'ont pas un terrain officiel, ils ont un terrain d'entraînement, le terrain synthétique, mais ils ne l'ont pas tous. Et vu les conditions climatiques qu'il y a eu, que ça soit en octobre, novembre, décembre, il y a eu 3 mois assez catastrophiques dessus, avec des terrains qui étaient gorgés d'eau. C'est pas facile de s'entraîner là-dessus, surtout qu'après, quand tu rejoues sur un terrain entre guillemets sec, je veux dire un terrain un peu plus rapide, et donc ça fatigue les organismes des équipes adverses. Donc oui, c'est sûr que ça y joue là-dessus.
Ouais, qu'est-ce que tu en penses, toi, Christian, par rapport à ce synthétique? Est-ce que ça peut donner un avantage certain au SA15 là durant cette période d'hiver ou pas du tout? Il faudra voir à terme.
Oui, mais Loïc, on parle justement, hein. Moi, je veux surtout revenir sur l'entraînement. Bien sûr, il y a les matchs, hein. C'est un peu la face découverte de l'iceberg, mais il y a surtout ce qui se passe en amont, à savoir les entraînements. Certes, j'imagine que pour des équipes de Pro D2, les terrains ne sont jamais interdits. Il y a des exceptions qui font que tu peux quand même t'entraîner, même si les terrains sont interdits pour les autres équipes ou pour les autres sports. L'avantage du synthétique, c'est qu'on peut s'entraîner dessus très souvent, par tous les temps. Et ce qui est bien, c'est que ça profite au SA15, mais ça profite aussi aux espoirs. Donc non, c'est bien pour ça, le synthétique. Ça permet de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. D'aller s'entraîner sur un terrain tout gras, où on est obligé de sélectionner les coins, où on fait les mêlées, de sortir les crampons spéciaux, parce que du coup, mais sinon, on tient pas debout. Parce qu'il y a de la boue, hein, sans jeu de mots. C'était le petit jeu de mots de 2024. Et bien du coup, c'est vrai que c'est compliqué, hein, de s'entraîner comme ça. Donc oui, bien sûr, le SA15 a l'avantage sur les matchs, l'avantage de pouvoir jouer sur une bonne surface, mais surtout le SA15 a l'avantage de pouvoir s'entraîner dessus et de familiariser, et puis surtout de garder des conditions d'entraînement similaires, que ce soit en décembre ou en juillet.
D'ailleurs, ça nous permet de faire le lien, parce que là, il y a des matchs à l'extérieur. Malheureusement, beaucoup de matchs qui vont se jouer sur des terrains naturels, hein, donc des pelouses qui vont être très difficiles. Et le prochain ça sera à Jean Alric face à Aurillac. Aurillac, on le sait, l'hiver c'est très compliqué. Là, on annonce du froid, du froid, du froid. A priori, pas de neige, mais très certainement un terrain gelé. Ça peut avoir son incidence, hein, messieurs, sur ce match et à quoi s'attendre face à une équipe d'Aurillac, certes, qui a été battue sévèrement, mais qui à domicile mate à peu près tout le monde. Loïc, comment vois-tu ce match, hein? Un match compliqué de toute façon.
C'est pas un cadeau en fait d'aller à Aurillac en plein hiver, c'est compliqué. Donc ça va l'être encore ce vendredi soir. Bon, il pleut pas déjà là-bas, ça sera la bonne nouvelle. Mais il fera très très froid, je pense. Les températures seront même négatives.
Oui, il prévoit moins 4 degrés pour l'instant à 19h vendredi. Voilà, mais bon, c'est pour l'instant.
Ça va être très compliqué. Ça va être un match. Mais où il va falloir s'y donner, il va falloir avoir beaucoup de mental là-dessus. Cette équipe d'Aurillac a l'habitude de jouer sur des températures comme ça. Non, faut rappeler que l'année dernière on a failli faire un coup là-bas. Ça serait bien de le reproduire cette année. On a fait un match aller contre eux qui a été le premier match à domicile chez nous et qui a été un peu exceptionnel, franchement, qui a été l'un des matchs les plus aboutis cette saison. Ça serait bien de le reproduire, quoi. Voilà. Enfin, maintenant, pour ça, il faut travailler la discipline de ce week-end. Et après, va falloir tenir chez les avants, que ça soit en touche et en mêlée, parce que c'est eux qui vont morfler le plus.
Ouais, tout à fait, hein, Christian. Pareil, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce match de Aurillac? D'autant plus que, par le passé, on a toujours dit, il y a un coup à faire à Aurillac, et à chaque fois, on n'est pas passé loin, mais ça s'est toujours mal passé. Je me rappelle d'un avant, dans les dernières secondes d'Adrien Ayastaran, qui aurait permis de donner la victoire à SA15, et malheureusement, ce fut une défaite. Comment vois-tu ce match?
C'est vrai que ça va être un match d'homme, hein, un match rugueux, un match compliqué, par les conditions déjà, match où il va falloir avoir il va falloir mettre les bons ingrédients bien sûr d'un point de vue rugby, hein, c'est-à-dire une bonne conquête, des bons fondamentaux, avoir pas les mains palmées, mais surtout c'est surtout pour moi les ingrédients moraux qu'il faudra sur ce match-là. Il va falloir beaucoup de bonnes valeurs parce que ça va être un match compliqué. Aurillac est habitué à jouer par le froid, mais bon, ça reste quand même des humains, donc Même quand on vit au fin fond de la Sibérie, le froid, je pense qu'on n'aime pas trop ça. Donc, ça sera compliqué pour les deux équipes. Maintenant, il va falloir mettre les valeurs. Pour moi, cette première mi-temps contre Vannes, justement, elle permet de se dire que voilà, si on a rivalisé pendant 50 minutes à Vannes, on peut rivaliser pendant 80 minutes à Aurillac. Maintenant, effectivement, les conditions de jeu vont être un paramètre à prendre en compte, et il va falloir bien se préparer. On a de la chance cette semaine, il va faire froid en Charente, hein, donc ça permettra vraiment au SA15 de se mettre dans les conditions presque aurillacoises. Et donc voilà, ça va être un match forcément compliqué. Ça l'est toujours à Aurillac. Hein. Et puis il me semble que le SA15 n'a jamais gagné à Aurillac, ou alors très peu, pourquoi pas fêter quelque chose d'historique. Et d'ailleurs, en parlant d'Aurillac, moi je salue un ancien joueur de la CFC qui joue à Aurillac et qui est reparti dans son Cantal natal, c'est Corentin Lémoni, qui est reparti du coup à Aurillac cette année. Je sais qu'il aime bien le rugby et bien le SA15, donc peut-être qu'il sera au stade vendredi pour supporter les Violets.
Dernière question importante. Est-ce que vous pensez que le mois de janvier va être déterminant pour le SA15? Et je m'explique en disant cela. C'est que là, il se déplace à Aurillac, mais ensuite le SA15 reçoit Colomiers pour ensuite se déplacer à nouveau à Montauban. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le 9 février, il y a un match très important qui s'annonce, puisque le SA15 reçoit Biarritz et dans le même temps, Rouen recevra Valence-Romont. Est-ce que vous pensez qu'en fonction du classement aussi là de ce mois de janvier, finalement, ce match face à Biarritz à domicile du SA15 peut permettre au SA15 de sortir, pas forcément définitivement, mais au moins se mettre la tête un peu, on va dire, dans le bon sens, en vue d'une fin de saison moins stressante que ça aurait pu l'être?
Non, pour moi, il n'est pas. C'est pas déterminant encore. De toute façon, dans, C'est plus pour Biarritz où c'est déterminant, parce que dans ce mois de janvier, Biarritz reçoit Valence Roman déjà. Donc ouais, déjà, il y a déjà un premier test pour eux. Ouais. Et ensuite, ils ont deux autres tests, c'est-à-dire qu'ils vont de suite après aller à Dax, qui est aussi un prétendant. Et ensuite, ils se déplacent chez nous. Donc c'est là en fait que ça va être plus important pour eux que pour nous. Pour nous encore, le bloc le plus important était pour moi le bloc de décembre. Ce bloc de janvier, on a trois déplacements, un match à domicile. Ce match à domicile, faut le gagner contre Colomiers. Là, il y a pas photo là-dessus. Après, essayer de faire un coup, de ramener un ou deux points à l'extérieur. Je suis d'accord là-dessus. Et après, oui, ça va être plus ce bloc de trois matchs à quatre matchs, pardon, cinq. Oui. On va sur cinq matchs par contre.
Surtout que là, il y a Biarritz. On va à Dax après. Enfin, voilà, il y a des matchs là qui seront vraiment très très importants. Réception de Provence. Voilà. Il y a possibilité
ça
là.
Ça va être plus le bloc d'après pour moi qui sera super important en allant à Dax, en recevant Biarritz,
en recevant
Valence aussi. Voilà. Ça va être ce bloc-là de cinq matchs. Il faut le maîtriser. Parce que ça va être long, ça va être le premier bloc de 5 matchs depuis le début de la saison. Donc je pense que là il va falloir se préparer niveau organisme, parce que ça va être très très long, ça va être très fatigant pendant ce mois de février. Ça va pas être facile pour tout le monde, donc va falloir tout donner sur ce bloc là pour ensuite peut-être souffler un petit peu sur le printemps.
Ouais, Christian, tu as la même analyse. Hein. De toute façon, le SA15, c'est un petit peu des on le dit à chaque année, hein, un petit peu comme une coupe hein, qu'elle joue sur ses fins de saison. Il y a tous les matchs sont quasiment importants et leur permettent de valider un tour supplémentaire. Et puis, là, le tour, c'est la qualification pour pouvoir se maintenir en Pro D2. Hein.
Pour moi, c'est quand même moins la coupe que l'an passé. L'an passé, on était vraiment dans une session catastrophique où le SA15 était clairement dos au mur, dernier, et s'il gagnait pas ses matchs couperés de janvier contre Massy, Montauban, là c'était clairement fini. Là, le SA15 est quand même dans une situation différente. Si personne ne marque de points, Biarritz sera derrière Angoulême. Donc c'est surtout Biarritz qui doit marquer des points pour l'instant. Même si
on les reçoit.
On reçoit les deux.
Biarritz et Valence Roman qui sont à égalité.
Ouais, le SA15 les reçoit, mais pour moi, il faut pas galvauder ce mois de janvier. Biarritz, c'est dans longtemps, finalement. Il va y avoir quand même de l'eau qui va couler sous les ponts. Il faudra voir à ce moment-là quelle est la dynamique de Biarritz, quelle est la dynamique du SA15, combien de points ont les équipes. Est-ce que l'infirmerie côté Biarrotte est complète? Est-ce que celle du SA15 est vide? Enfin, pour moi, c'est longtemps. Il y a déjà quand même beaucoup de matchs à disputer avant. Et puis si on fait un focus entre ce duel, pour moi n'en est pas un, parce qu'il y a quand même des équipes comme Valence Roman à intégrer dedans, même Dax et Agen potentiellement, même Aurillac,
voire Aurillac en fonction du résultat aussi,
un peu devant et pas non plus hyper devant. Mais en tout cas, c'est vrai que si on fait un focus sur Biarritz, ce qu'on peut dire, c'est qu'Angoulême sait qu'ils vont jouer le maintien toute la saison en Pro D2. Voilà, on sait que le SA15 va jouer le maintien, ils sont préparés à le jouer, ils l'ont joué l'an dernier. Biarritz, c'est quand même une équipe qui, même si elle a des soucis extra-sportifs, je pense pas que c'est une équipe qui se préparait à jouer le maintien en début de saison.
Ah oui.
Et donc, généralement, c'est compliqué pour ces équipes-là. Les équipes qui savent qu'elles jouent le maintien, elles ont des repères, elles ont des points de passage, elles savent ce qu'il faut faire entre guillemets pour se maintenir. Les équipes qui jouent pas le maintien, c'est le doute qui s'installe, parce qu'on se dit nous on veut jouer le top 6, le top 8, mais on se retrouve 15e. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a une perte de confiance, et puis surtout il y a surtout des matchs couperés pour le maintien que qu'on n'a pas l'habitude de disputer. Donc pour moi, c'est un point à mettre au crédit du SA15. Maintenant, il va y avoir quelques matchs auparavant sur ce mois de janvier. Et bien sûr, il faut surveiller ce que fait Biarritz, mais il faut aussi bien sûr surveiller ce que fait le SA15. Donc pour moi, ce match de Biarritz, j'y pense pas encore. Faut d'abord se déplacer à à Aurillac, parce que comme le dit l'entraîneur d'Angoulême en foot cette fois, le match le plus important c'est celui qui arrive. Donc pour moi le match le plus important c'est celui d'Aurillac.
Ouais, et d'autant plus que si je peux me permettre, le SA15 aura rien à perdre, tout à gagner Aurillac, puisque Valence Romand recevra Vannes, ça sera va être forcément compliqué pour Valence. Provence Rugby recevra Dax, Rouen se déplace à Brive et Biarritz va à Nevers. Donc effectivement, en cas de bon résultat du SA15, ce n'est que du bonus. Parce que les équipes qui sont aujourd'hui dans l'adversité avec le SA15 vont avoir des matchs très très compliqués le week-end prochain. Très bien, merci messieurs. On a fait un long format hein, puisqu'on est déjà à 35 minutes hein, d'émission quasiment. On espère hein, bien sûr, on croise les doigts que le SA15 va faire un gros match vendredi prochain. On le rappelle, ce sera à Aurillac. Le match suivant, on en parlera lundi prochain. Ce sera à domicile face à Colomiers, bien sûr. Un match très important. Ce sera le premier de 2024. En attendant, on vous souhaite tous une bonne santé parce que les fêtes sont passées. On sait que pour beaucoup, c'est très compliqué. L'après-fête hein, entre les maladies etc et la fatigue et en attendant on vous souhaite une très bonne semaine, un très bon match vendredi, on vous donne rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, salut.
Le SA15 Mag Attitude, toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.